Ça se passe en 2015, au Rédol, une sorte de petit écrin de verdure, un petit écrin américain au cœur de Paris. Et c'est la cérémonie d'hommage à Gene McNear. Et c'est la première fois que moi je vois Melvin McNear. Je suis amené là par un historien américain qui s'appelle Tyler Stovall. Et je vois un monsieur d'un certain âge, encore les silhouettes très fines, qui porte beau, cheveux coupés très courts, élégants. Il est là, il est entouré de jeunes venus de la grâce de Dieu, un quartier de Caen, entouré de ses vieux amis de quand il sortait de prison, quand eux ils étaient étudiants et que lui sortait de prison. Et c'est la première fois que je le vois et j'ose à peine le saluer. Et je vois ce monsieur qui vient d'être veuf et je pense à ce qu'il a fait et je pense aussi à mon père parce que mon père est veuf lui aussi depuis quelques mois, depuis 2 ans exactement. Et voilà, je pense à tout ça et je vois ce monsieur et j'ai un peu l'histoire devant moi.
Lift every voice and sing till earth and heaven ring, ring with the harmony of liberty. Let our rejoice.
Vous avez ce vieil homme en face de vous, Sylvain Patieu, et vous entendez ce chant.
Oui, et c'est le chant, c'est l'hymne des Noirs américains dans les années 70. Donc c'est un chant qui est chargé d'histoire, qui est chargé de lutte, et qui retentit pour célébrer la mort de cette femme, Jean McNear, qui était sa femme, et qui n'a pas revu le sol des États-Unis depuis bien longtemps, depuis 1972 très exactement. Depuis le jour où, avec son mari, avec leurs enfants, avec des amis aussi, ils ont détourné un avion.
Et ce chant, c'est un poème. Il dit quoi, ce poème? Est-ce que vous en savez une ou deux lignes?
Il dit, je m'en suis inspiré pour le titre du livre que j'ai écrit à propos de cette histoire, qui s'appelle « Nous avons arpenté un chemin caillouteux ». Nous avons arpenté un chemin caillouteux, ça veut dire, c'est l'idée d'un progrès, l'idée d'une lutte, et en même temps l'idée d'un chemin qui est semé d'embûches, qui n'a pas été facile, et ça retrace en fait ce poème qui a été écrit à la fin du 19e siècle. Il retrace l'histoire des Noirs américains.
Est-ce que dans votre vie, dans votre esprit, vous avez des chants de résistance comme ça qui vous accompagnent?
Oui, il y a Bandiera Rossa. En italien, je ne chanterai pas, mais ça peut servir de berceuse pour les enfants. Il y a l'International, il y a beaucoup de chants comme ça qui m'accompagnent, qui étaient ceux des manifestations. Auquel j'ai pas mal participé.
Laetitia Masson, vous en avez des chants de résistance comme ça qui vous accompagnent?
Oui, l'International aussi, évidemment. Mais je suis passée à un autre moment, parce qu'il y a quand même du temps à passer, la situation politique à passer. Les idéaux sont passés aussi, et donc je trouve qu'il faut renouveler, il faut s'inventer presque un chant personnel. À chacun pour résister chaque jour de façon presque individuelle, parce que je trouve le collectif difficile.
Rapport éthique, c'est ce qu'on ne peut pas tuer, ce qu'on peut tuer, mais dont le sens consiste à dire tu ne tueras point. Vous savez que le meurtre est une chose assez courante, on peut tuer autrui, mais nous sommes alors dans une relation où le visage n'a pas été vu.
Il Il est 23h et heureusement, il y a toujours l'avenir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'ait été le passé, c'est ce que Jean McNear écrit dans une lettre au juge. Heureusement, il y a toujours l'avenir, même si le chemin est long. Sylvain Patu écrit l'histoire de Jean et Melvin, anciens pirates de l'air. Deux amoureux, sympathisants des Black Panthers, qui se sont retrouvés à détourner un avion des États-Unis pour Alger avec 86 passagers, contre une rançon $1 million déposée sur le tarmac. Sylvain Patieu aime l'utopie pirate, le grain de sable dans les rouages. Ce sont des pirates des années 70 qui embarquent avec les enfants, qui rêvent de faire libérer Angela Davis, qui ne veulent pas utiliser leur pistolet, qui veulent juste le contraire de leur enfance. Leur enfance, c'est un moment entier qui pensait « heureusement, il y a toujours l'avenir » et qui attendait que ça passe. Plus tard, il y aura le procès où ils enverront au juge « ces papiers, ils peuvent vous montrer certains faits de notre vie, mais ils ne peuvent pas vous montrer nos douleurs, nos tristesses. Alors, ils enverront des poèmes, des traces de leur vie. » Laetitia Masson, dans la série Aurore, met en scène la petite Aurore qui sortira de prison à 20 ans, parce que quand elle en avait 10, un jeu d'enfant a mal tourné et il y a eu un mort. Elle aussi, l'enfance, ça attendait que ça passe. Elle, avant le drame, personne ne la regardait. Avant qu'on la suspecte et qu'on l'interroge, personne ne lui avait posé de questions. Les enfances qui ne comptent que sur l'avenir, ça peut être dangereux. Ça donne envie de vraiment jouer aux pirates. Ça prend les jeux au sérieux et puis ça ne joue plus. Sylvain Patieu pose la question « qu'est-ce qu'on peut faire après avoir détourné un avion ?» On a plusieurs vies, écrit-il, mais certains moments durent et pèsent. Qu'est-ce qu'on fait quand des moments à oublier durent dans le futur ? Sylvain Patieu a appelé son livre « Nous avons arpenté un chemin caillouteux ». Lui et Laetitia Masson dans son film font l'inventaire de ce dont ne disposera jamais le juge et décrivent la belle menace qu'est un avenir tant désiré.
On a plusieurs vies, c'est un fait. Le bébé rieur ou inquiet laisse place à l'enfant bagarreur. Et ses parents seuls s'en souviennent. Puis les âges et les états se succèdent. Il en reste des souvenirs, quelques photographies. Des adolescents turbulents grandissent. Ils changent, perdent de vue leurs amis de jeunesse et plus rien ne rappelle leurs 400 coups. Des beautés s'éloignent irrémédiablement de leur splendide passé. D'anciens souffre-douleurs prennent de l'assurance. Il y a des secondes chances, des possibilités de se réinventer. Plusieurs vies, plusieurs corps qui les accompagnent. Elles tombent dans l'oubli, ne tirent pas à conséquence, réapparaissent dans un regard, un objet. Certains moments, cependant, durent et pèsent.
Il y aura donc Laetitia Masson pour la série en 3 épisodes Aurore, diffusée sur Arte et disponible jusqu'au 25 janvier en intégralité sur le site de la chaîne avec entre autres Élodie Bouchez et Lolita Chama. Il y aura Sylvain Patieu pour son livre Nous avons arpenté un chemin caillouteux aux éditions Plein Jour qui retrace la vie de Jean et Melvin McNair. À la musique, il y aura Mélissa Lavo, son album Radio Sewell sort le 2 février. Elle reprend des chants résistants haïtiens du début du dernier siècle et elle sera en concert le 8 mars aux Étoiles à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, une vie qui a commencé normalement jusqu'à un avion, un 31 juillet 1972 et un certain détournement.
There was another airplane hijacking today.
The hijackers are described as 3 men, 2 women, and 3 children, all black.
And we got on the plane, seated the children. Nobody knew that we were involved in it at all.
We want to make sure that we get the passengers off.
They were a Black Panther group. This is where their brothers were.
And I tried to tell him this airplane won't fly to Algiers.
He had to know that it was a gun with bullets in it. That was the main thing.
I didn't want any gunfire to get started because people had said, Larry, so you think they really shot? I said, well, once the shooting starts, who knows?
Black people, what y'all gonna do?
On a des bons enfants. Je voulais pouvoir les offrir une meilleure vie que ce qu'on avait vécu. Et je ne voulais pas qu'ils étaient obligés de vivre ce que nous avons vécu en tant qu'enfants et adolescentes.
Sylvain Patieu, quand vous retracez l'histoire qu'on connaît mal, en tout cas moi que j'ai découverte et qui est assez incroyable, de Jean et Melvin McNair, vous commencez par dire « j'aime l'utopie pirate, l'esprit pirate ». Pourquoi ?
Parce que la piraterie, en fait, mon précédent roman, c'était un roman de pirate, mais qui était une fiction qui s'appelait « Et que celui qui a soif vienne », qui est paru en 2016 aux éditions du Rouergue. Et de manière presque naturelle, ça m'a amené à m'intéresser à l'histoire de Jean et Melvin McNair, parce que la piraterie, c'est toujours le reflet de la misère d'une époque. Et la misère de l'époque de Jean et Melvin, c'est le racisme, c'est la ségrégation aux États-Unis. Et tout acte de piraterie, il vient de là. Alors après, on peut condamner quand même ces actes, on n'est pas obligé de les approuver. Mais en tout cas, quand on essaye de comprendre d'où ça vient, on voit toujours que ça vient de là. Et au début, on m'avait demandé pour le journal L'Humanité d'écrire. Ils avaient demandé à une cinquantaine d'écrivains d'écrire des portraits de gens qui vivent en France. Et ça m'intéressait de raconter l'histoire d'un couple qui venait d'ailleurs et qui avait reconstruit leur vie en France après avoir commis un acte aussi terrible que celui-là, de détourner un avion. Donc je voulais raconter comment on fait après ça, comment est-ce qu'on arrive à passer à autre chose après avoir fait un acte aussi énorme que celui-là.
Vous décriviez au début de l'émission le moment où vous rencontrez Melvin McNair. Là, c'est en 2015, donc il est âgé. Qu'est-ce que vous percevez de lui dans les années 70 à ce moment-là?
Alors, je perçois toute une imagerie qui va de pair avec celle des Black Panthers. On a tous en tête ces images d'hommes noirs, souvent avec des bérets, avec des armes. On a l'image des blousons en cuir, des mains gantées de noir. On a l'image d'Angela Davis aussi, les coupes afro, etc. Et c'est vrai que c'est un mouvement politique qui a réussi à avoir une geste pas simplement dans l'action, mais aussi dans l'imaginaire, qui entraîne beaucoup de choses dans l'imaginaire. Et en m'intéressant à ce qui s'était passé, j'ai été amené à entrer de plein pied en fait dans les années 70. Et bon, moi je suis né en 79, donc j'ai pas connu ces années 70. On a souvent une image un peu romantique, et ce que j'essaye de faire ressortir dans le livre, c'est pas seulement cet aspect là mais aussi qui avait aussi un aspect assez triste, assez désespéré.
Vous les annoncez c'est exaltant et c'est moche.
Voilà, c'est exaltant et c'est moche, c'est ça, parce que à la fois on est dans un moment de mouvements sociaux, de luttes sociales qui sont assez importants, mais on est aussi déjà dans un reflux, déjà dans une période où, ce que disait Laetitia Masson au début, où il y a moins d'utopie collective, il y a moins d'espoir, il y a plus de désillusions. Et Jean et Melvin McNair, par exemple, ils sont sympathisants des Black Panthers, mais ils n'en sont pas militants, parce que, comme lui, il est déserteur du Vietnam, il mettrait en danger l'organisation s'il était vraiment militant. Et ils vivent dans une sorte de communauté. Donc il y a un aspect... le côté Black Panthers, ça peut paraître très militaire, très dur, mais ils ont un côté New Age en même temps, où ils fument des joints, ils brûlent des poupées vaudou, et il y a une sorte de syncrétisme de tout ça qui les amène à commettre cet acte désespéré pour quitter les États-Unis.
Et c'est le moment où l'Amérique est encore ségrégée, mais où il y a les premières mesures qui sont prises, eux accèdent à l'université.
Oui, eux, c'est les premiers qui bénéficient en fait du mouvement des droits civiques. Et ils en bénéficient et ils en voient les limites aussi. C'est-à-dire que quand ils vivent dans un monde qui est assez séparé de celui des Blancs. Ils participent pas tellement au monde des Blancs.
Et vous décrivez la première confrontation de Melvin au monde des Blancs.
Oui, c'est quand il prend un escalator mécanique dans un grand magasin où sa grand-mère l'a amené. Il bouscule une femme blanche et il se fait rabrouer, il se fait traiter de petit singe, de négrillon. Donc c'est très violent. Et quand il rentre chez lui, il se prend une raclée parce qu'il faut pas se faire remarquer, parce qu'il faut être discret. Et pourquoi est-ce qu'il faut pas se faire remarquer? Pourquoi il faut être discret? Parce que à la même époque, il y a Emmett Till qui est tué, lynché par des Blancs parce que il a osé avoir, alors on ne sait pas si c'est un propos déplacé ou un regard déplacé, ou peut-être même rien du tout, vis-à-vis d'une femme blanche. Donc c'est vital pour les familles noires d'enseigner à leurs enfants de ne pas moufter quand il y a des Blancs. Et ils vivent finalement, à part cet épisode-là, ils vivent quand même un peu protégés de tout ça. Mais quand Melvin se retrouve en Allemagne pour faire son service militaire, là il prend de plein fouet le racisme qui existe encore dans l'armée américaine. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de ne pas aller au Vietnam. Parce que, tout simplement, pour lui, les Vietnamiens ne sont pas ses ennemis.
Il a un enfant avec Jean et il décide de déserter. Et c'est là où il s'installe un peu en communauté.
Voilà, il s'installe.
Avec deux, trois autres amis.
C'est ça, dans une sorte de communauté à Detroit, avec donc une autre femme qui s'appelle Joyce Tillerson, qui sera plus tard secrétaire de Dulcie September à Paris. Et avec deux hommes qui, eux, sont des braqueurs, donc qui sont évadés de prison. Et tous les cinq, ils décident de braquer un avion. Alors, ça peut paraître un acte complètement fou aujourd'hui de braquer un avion. Et puis, on a tout de suite des images très violentes après le 11 septembre. Et puis, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui de terroristes qui ont fait exploser des avions. Mais à l'époque, c'est un acte finalement assez banal parce que c'est le moment où l'aviation civile explose. Il y a beaucoup de monde qui prend des avions de ligne.
On ne passe pas sous des portiques métalliques.
Ah non, 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 tout ça, ça paraît quelque chose de complètement fou pour les compagnies aériennes. Ils disent d'abord, c'est trop cher, on va pas dépenser des portiques, mettre des vigiles, non, c'est trop cher. Et puis, qui accepterait de venir deux heures avant pour prendre un avion? Donc on prend un avion un peu comme on prend le train aujourd'hui, on y va, et puis si on a des armes, on les garde. Et il y a beaucoup d'avions qui sont détournés au départ vers la Havane. C'est quelque chose d'assez banal. Donc finalement, l'acte en lui-même n'est pas tellement difficile, mais le fait de braquer comme ça un avion avec ses enfants et de décider de quitter l'Amérique pour aller en Algérie, ça aussi, ça peut pas être étonnant, mais c'est le pays qui a vaincu le colon, ça apparaît comme un centre anti-impérialiste.
Et voilà, eux, c'est le moment de l'affaire Angela Davis. Donc pour eux, c'est aussi une façon de peser sur sa libération.
Alors, Angela Davis, elle avait déjà été libérée pas longtemps avant. Il y avait eu un autre couple qui avait détourné un avion.
Et qui a été l'exemple de...
Voilà, qui a été l'exemple qu'ils ont voulu suivre. Et eux, ils se préoccupent pas tant que ça d'Angela Davis. Ils se préoccupent plutôt de partir à Alger. Et ils espèrent là-bas rejoindre la section internationale du Black Panther Party. Et en fait, celui qui s'occupe de cette section-là en Algérie, c'est Eldridge Kliger, qui est une sorte d'un ancien délinquant qui a prôné le viol des femmes blanches comme une sorte de vengeance. Et en fait, on est dans un mouvement qui part complètement en capilotade. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils accomplissent un acte pour eux qui est un acte d'espoir, d'émancipation. Et ils se retrouvent dans une situation totalement désespérée avec cet Eldridge Kliger qui n'est intéressé que par l'argent de la rançon, qui est récupéré par le gouvernement algérien et rendu au gouvernement américain. Donc, ils ne sont plus intéressés par personne. Et finalement, ceux qui vont... Donc, ils sont obligés de renvoyer leurs enfants aux États-Unis parce qu'on ne peut pas vivre clandestinement
avec des enfants. Ils vivent pendant 6 ans aux États-Unis sans leurs parents.
Chez les grands-parents. Et finalement, les seuls qui vont leur tendre la main, les seuls qui vont leur permettre de passer en France, c'est le réseau Curiel. Donc, c'est un juif communiste d'origine égyptienne qui avait été porteur de valises pendant la guerre d'Algérie, qui avait un réseau qui était encore vivace, qui leur permet de passer en France, de vivre quelques mois clandestinement en France, puis ils sont arrêtés par la DST et ils sont jugés en 1978. Et ils sont condamnés, mais la France refuse de les extrader. Elle refuse de les extrader en disant que c'est en quelque sorte des prisonniers politiques.
Et vous décrivez quand vous allez dans les archives et que vous lisez les lettres de Jean McNear au juge, et vous dites j'ai les larmes aux yeux, il y a quoi dans ces larmes-là?
Alors c'est très émouvant parce que à la fois dans ces archives, dans les archives du procès, donc je trouve à la fois l'interrogatoire des 90 passagers par le FBI, traduit en français heureusement parce que mon niveau en anglais n'est pas exceptionnel. Et donc on a une sorte de vision kaléidoscopique d'un détournement d'avion. Chaque passager a sa vision du détournement d'avion.
D'ailleurs dans votre récit, c'est très intéressant parce qu'il y a on a l'impression de vivre dans l'avion à ce moment-là et finalement c'est un détournement, mais c'est vrai que les gens se mettent à parler entre eux.
Oui, y a des discussions un peu surréalistes. Jean, par exemple, elle discute d'accouchement sans douleur avec une des hôtesses de l'air, parce que c'est aussi ça, les années 70, c'est aussi cette époque-là. Elle discute de mariage, elle lui donne des conseils de mariage, parce qu'elle sait que l'autre est fiancé. Et voilà, donc il y a des passagers, bien sûr, qui les décrivent comme des personnages très menaçants, et d'autres qui les voient plutôt de manière sympathique. Et j'y avais aussi avant que le procès ait lieu, il y a eu une instruction. Et donc Jean, qui s'était améliorée en français en prison, elle écrit des lettres au juge. Et elle parce que bien sûr, ils regrettent leur acte. Et elle essaye d'expliquer pourquoi ils en sont arrivés là. Et ça, ce sont vraiment des lettres qui sont très émouvantes, surtout que moi, je n'ai jamais rencontré Jean McNear. Et finalement, je l'ai rencontrée à travers les archives. Je l'ai rencontrée à travers les lettres qu'elle a écrites. Et d'une certaine manière, Je pense qu'un peu comme dans la série de Laetitia Masson, il est question de rédemption, mais pas de rédemption au sens chrétien ou christique du terme, mais de rédemption au sens laïque. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de, comment est-ce qu'on peut continuer sa vie après un acte dont on n'est pas fier, après un acte qui, en tout cas, a infléchi de manière inexorable le déroulement de sa vie. Donc eux, ils ont détourné cet avion, ils sont restés 6 ans sans voir leurs enfants. Ils ont fait de la prison. Les femmes ont fait 2 ans de prison, les hommes ont fait 4 ans de prison. Comment est-ce qu'on se reconstruit après ça? Comment est-ce qu'on se reconstruit aussi avec le regard des autres?
La réponse, elle est assez étonnante parce que vous décrivez, après leur vie, ça a été plus de 30 ans de vie en France et ils ont été travailleurs sociaux, ils ont travaillé avec la jeunesse dans leur quartier à Caen. Que ce soit dans le sport ou pour aider au soutien scolaire.
Oui. Aujourd'hui, il y a un terrain de sport qui porte leur nom. Melvin McNair, il a été important pour la Fédération française de baseball parce qu'il a contribué à importer le baseball en France. Et ils ont joué un rôle vraiment de travailleurs sociaux dans leur quartier, de pacificateurs. Et voilà. Et finalement, ils s'occupaient des enfants, peut-être aussi parce que les enfants, leurs propres enfants, ils en avaient été privés pendant des années. Alors ils ont fait un troisième enfant en France. Et j'ai eu assez peu de dialogue avec Melvin McNair, mais je sais qu'il a bien aimé mon livre. Et c'est vrai que quand on écrit un livre sur quelque chose comme ça, bon, moi je suis un blanc français, j'ai un rapport très lointain avec cette histoire, même si il y a un côté universel dans cette histoire, mais quand même, j'ai essayé de l'écrire vraiment de la manière la plus modeste qui soit.
Laetitia Masson, Sylvain Patu a commencé à évoquer l'histoire et le parcours d'Aurore. Est-ce que c'est cette question, vous aussi, qui vous a tenu dans l'écriture du récit? Comment on fait après? Comment on continue à vivre? Comment on repense?
La situation est quand même très différente, puisque là, vous, c'est deux adultes qui réfléchissent. Bien ou mal, je ne sais pas, mais qui décide au nom d'un idéal d'agir. Moi, c'est une enfant de 10 ans qui ne sait pas exactement pourquoi elle a fait ça, ce qu'elle a fait, et qui n'envisage évidemment pas les conséquences. Donc, pour moi, c'est un tout autre sujet, même si, évidemment, là, il y a de la reconstruction, il y a de la rédemption, il y a tout ce que vous voulez. Mais, et puis, il y a quand même la mort dans mon histoire à moi. Pour moi, la question posée par mon film, c'est plutôt comment veiller sur l'enfance malgré nous.
Au départ, il y a une enfance qui ne compte pas, justement, au départ d'Aurore, qui compte peu.
La mère est dans ses questions à elle, dans ses problématiques à elle, qui ne sont pas d'ailleurs si lointaines, dans le sens où c'est quelqu'un qui a l'abandon. C'est une victime économique et politique, on pourrait dire, puisqu'elle est dans un village ou dans une ville du sud post-industrielle dans laquelle il n'y a plus de travail, plus de... Donc elle est occupée par elle-même et elle a cette petite fille qu'elle laisse en liberté, qui est du coup comme un petit enfant sauvage. Et on voit aussi que les institutions, l'école et les assistantes sociales... la voient de loin, mais n'ont pas non plus accès à exactement à ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc voilà, moi je questionne par la fiction une forme d'articulation d'un contexte et voir quels sont les points où quelque chose va vers un destin et essayer de faire réfléchir le spectateur à ses propres points-là dans sa propre vie pour essayer d'éviter... des formes de catastrophe, on pourrait dire.
Et avant de plonger dans Aurore, Laetitia Masson, est-ce que vous pourriez lire, Sylvain Patu, un extrait de votre roman?
Oui, bien sûr.
Qui décrit justement aussi dans un contexte évidemment très différent, une autre époque, un autre pays, l'Amérique des années 50, des enfances à l'abandon et une faillite de finalement du collectif, de la collectivité autour. Alors, c'est les enfances des amis de Jean et Melvin avec qui ils ont détourné cet avion.
Melvin, Jean, Joyce, les deux George, tous ensemble dans la même maison. Ils ne parlent pas du passé, il ne vaut mieux pas, ils n'ont pas besoin de le faire. Elle les hante, ces bribes de la vie d'avant. Joyce Tillerson a 10 ans. Elle part chez ses grands-parents pour l'été, avec sa cousine de New York. Elles sont seules à la maison. Un blanc en affaire avec ses grands-parents tape à la porte. Elle n'ouvre pas. Il tambourine et menace. Il veut les forcer, les négresses. Il se déshabille et il crie. Il tape. Et c'est seulement quand Joyce sort le fusil, le charge et le vise qu'il s'en va. Quand ils l'apprennent, ses grands-parents l'abattent. George Brown a 7 ans. Il vit avec sa mère dans le New Jersey. Un jour, son père vient, l'emmène avec son frère et sa sœur en voiture. C'est leur première fois en voiture, sa première fois hors du ghetto. Il est joyeux. Ça ne dure pas longtemps. Son père et son ami les battent. Les deux garçons dorment par terre dans les tiroirs de la commode à cause des rats. Leur sœur dort avec le couple dans leur lit. La petite amie la pince toute la nuit. Quand les enfants retournent chez leur mère, elle promet. Ils ne retourneront jamais là-bas. Joyce Tillerson a 3 ans. Sa mère la ramène en voiture du jardin d'enfants. Soudain, elle lui ordonne de s'allonger sur le plancher, ça tangue et ça remue. Arrivée à la maison, sa mère pleure. Un blanc qui les dépassait a voulu les envoyer dans le fossé. George Brown a 8 ans. Son père vient le chercher quand sa mère n'est pas là, l'emmène de force, le vend à une femme noire riche à New York, qui l'enferme dans son appartement. Elle est gentille avec lui la plupart du temps, mais il ne peut pas sortir et il travaille. Au bout de quelques semaines, sa mère le retrouve, le reprend. Elle lui dit que son père l'a vendu pour $25. Joyce Tillerson a 5 ans. Son père frappe sa mère, il balance son petit frère à travers la pièce contre le mur. Quelque temps après, ils se séparent. Joyce ne revoit son père que 2 fois.
Il y a une autre chose, Sylvain Patieu, que vous soulignez, c'est la différence entre les hommes et les femmes dans cette lutte. Et comment tout à coup, certaines femmes, à la suite de Rosa Parks, font des actions fortes, mais ne sont pas forcément mises en avant parce que pas assez respectables, parce que l'une est enceinte, l'autre a un père alcoolique, et que des hommes sont mis en avant avant
oui,
ces femmes-là.
C'est un aspect qui m'a intéressé aussi dans ce couple de Jean et Melvin, c'est l'aspect moins peut-être déséquilibré que dans d'autres couples qu'il pouvait y avoir. Puisque, par exemple,
elle était un peu plus âgée que lui.
Elle était plus âgée que lui. Il était attiré par sa prestance intellectuelle et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait dans leur couple et dans les archives. Je vois bien les lettres qu'elle écrit, qui sont vraiment des lettres très belles et très pensées. Et si on prend l'exemple de Rosa Parks, par exemple, Rosa Parks, c'était quelqu'un qui avait milité toute sa vie, qui était une dame d'un certain âge, qui était et quand même qui avait de la bouteille. Et on lui a dit le fameux acte. Qu'on connaît quand elle a refusé de se lever dans le bus, on lui a dit de se taire, en fait, de laisser parler les hommes, et notamment un certain Martin Luther King qui après est devenu célèbre. Et c'est vrai que voilà, dans tout combat, il peut y avoir à l'intérieur même d'un combat, il peut y avoir des inégalités. Et le mouvement noir américain n'était pas exempt parfois de machisme. Et voilà, donc j'aimais bien ça chez Jean et Melvin McNair, ce côté peut-être un peu égalitaire entre eux.
Reconnu Mélissa Lavo?
Oui, j'ai reconnu Imrante de Pradine.
Elle avait 99 ans, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, mais c'était une figure en Haïti.
C'était un peu... Moi, j'aime penser que c'était la grand-mère des Haïtiens, et en fait, c'est la tante d'ancien président de Sweet Mickey, de Martelly, et c'est la mère du leader de Ram, du groupe Ram, et puis c'est aussi la fille d'Auguste de Pradine. Du coup, c'est un peu une figure, parce que ça vient de la famille, une des grandes familles musicales en Haïti, mais aussi une famille qui a vachement milité pour la culture haïtienne.
On a commencé l'émission en évoquant des chants résistants. Vous, votre album, c'est le fruit de plusieurs années de recherche sur des chants d'une période assez précise en Haïti, qui était la période d'occupation des États-Unis. Et ce répertoire-là, vous le retravaillez, vous le réveillez.
Et oui, en fait, c'est pas que des chansons qui ont été écrites pendant cette période. En fait, j'ai fait une recherche sur les chansons qui ont été chantées, que les gens ont choisi par astuce de chanter certaines chansons à un certain moment précis, parce que certaines chansons voulaient dire certaines choses et d'autres en voulaient dire d'autres. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était l'utilisation de chansons qui paraissent assez simple, qui parle de la vie rurale et en fait qui parle d'autre chose en fait. Donc là, je m'apprête à reprendre une chanson de Franz Cassius qui a été écrite juste après l'occupation, parce que Franz Cassius est né l'année où les Américains sont arrivés sur l'île. Et c'est une chanson qui raconte tout naïvement, allons danser et faire la fête dans les bois. Et en fait, quand on décortique, on voit facilement qu'il s'agit de résister aux Américains. Allons dans le bois parce qu'il y aura de l'eau, parce qu'on va célébrer nos déités, nos divinités, on va célébrer le vaudou, on va danser l'Ianvalou, une autre danse du vaudou, etc. Et du coup, c'est une chanson qui paraît tellement simple et en fait qui en cache pas mal d'histoires.
Et le morceau s'appelle
N'enfant bois.
Il fait partie de l'album qui va sortir le 2 février, Radio Sewell.
Oui, c'est exactement. Je suis Mélissa Lavaux, nous sommes en studio avec Laetitia Vincent et Sylvain Pathieu. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
appris qu'il était mort. Tout s'est effacé, je me rappelle pas ce que j'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Comment j'ai fait?
Mais quand même, quand tu l'as fait, tu savais bien qu'il était en train d'étouffer un enfant. N'importe qui le sait quand il est en train de faire du mal à quelqu'un. T'avais bien l'idée derrière la tête. Le trou noir, c'est pas possible. Pourquoi tu me réponds pas?
Je croyais que je jouais.
Comment je peux te croire? Ta mère, elle est pas morte. Pourquoi tu mens? Moi, je veux la vérité.
Lâche-moi!
Écrivain, ça veut dire quoi?
Hein? Est-ce que tu connais mon histoire? Vous croyez tout ce que vous savez. Et moi, je te dis que je savais pas.
Mais c'était un enfant! Un tout petit enfant!
Oh, j'étais pas un enfant! J'étais un chien! Un chien! Tu comprends?
C'est un extrait d'Aurore, Laetitia Masson, qui est une série en trois parties. Il y a l'enfance, les fantômes et Requiem. Et là, on est un peu avancé dans l'histoire. Aurore est sortie de prison et elle se retrouve face à celle qui s'appelle Maya en réalité, qui est la petite sœur du petit garçon qui est mort quand elle avait 10 ans et qu'elle a tué dans ce jeu d'enfant qui a mal tourné. Comment vous avez... Pourquoi c'était important de justement commencer l'histoire avec des enfants et de montrer ce moment-là et de suivre Aurore pendant toute une partie dans cette enfance où on a l'impression que c'est déjà un petit adulte?
C'était le parti pris du regard sur c'est aussi inspiré d'un fait divers des années 60. Je pense que le moment de l'enfance est essentiel dans la construction d'un être humain. Et donc, on ne peut comprendre l'acte d'un adulte que si... d'ailleurs, tous les actes, d'une certaine façon. Mais c'est pas un axe psychanalytique, c'est un axe à la fois, justement, économique, politique, social, intime. Donc d'essayer de comprendre comment se construit une vie. Avec un événement extrêmement fort et dramatique, mais je pense que le film est construit de telle façon qu'on peut en tirer des ficelles et des échos pour chaque vie. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire, partir d'une chose extrêmement outrancière, enfin qui est, heureusement n'arrive que très rarement, mais qui peut révéler la structure d'autres vies, d'autres destins.
En tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu une série d'abandons, de petits abandons, que ce soit de la société ou des parents vers les enfants. Il y a l'avocat qui dit une phrase à un moment donné, qui dit « Quand on a des enfants, on sait que c'est pas facile d'être bon, ni pour les parents, ni pour les enfants. »
Oui, c'est pas tant des abandons que chaque circonstance rejoue, en fait, des formes d'engagement qu'on s'est promis d'avoir. Il n'y a pas que dans l'enfance, mais ça commence là. Est-ce qu'on va être bon ou mauvais? Est-ce qu'on va se sauver soi-même ou est-ce qu'on va sauver l'autre? Et c'est toujours des moments très... des dilemmes atroces qui se rejouent sans cesse. Et donc, c'est d'être sûr... construire un enfant, c'est l'amener à être sûr à un moment d'être juste, quelles que soient les opinions autour ou quelles que soient ce que les autres vous renvoient comme violence.
Alors on va réécouter Lévinas sur le visage.
L'autre, le visage de l'autre, c'est aussi une précision, c'est la rectitude, la droiture de ce visage. C'est comme s'il était en face de la mort. Le visage est à bout portant, comme si une flèche devait l'atteindre. l'exposition du visage, c'est une exposition par excellence, c'est-à-dire l'exposition à la mort. La responsabilité pour l'autre, c'est précisément la responsabilité de la proximité. N'est pas laisser s'occuper de la mort d'autrui, n'est pas le laisser seul à la mort. En réalité, ce qu'il y a de demande dans son visage, c'est précisément ne pas me laisser seul, n'est pas laisser mourir l'autre. Et alors, il y a un autre thème qui se développe alors, l'importance de cette crainte pour la mort de l'autre, qui est certainement à la base de cette responsabilité pour lui. La crainte pour autrui, qui est la véritable relation avec autrui, est une crainte dénaturée, n'est-ce pas ? C'est une peur pour autrui.
Évidemment, dans Aurore, il y a l'image, en plus du son qu'on a écouté, il y a les visages, et aussi parce que c'est une histoire des regards, parce que avant le drame, personne ne se regarde, personne ne se cherche, et tout à coup, il se passe ça, et alors là, on commence à se regarder. D'abord pour se jauger, mais on commence à prendre conscience les uns des autres.
Oui, c'est-à-dire, ce que dit Lévinas est sublime, évidemment, mais... si on le prend comme ça, on ne vit pas presque, puisqu'on n'est que vers l'autre. Et dans le film, dans la série, on peut voir qu'il y a des fausses attentions à cet enfant. Elle n'est pas si seule, sa mère l'enlace, sa mère fait appel à elle, sa mère a besoin d'elle. Donc la crainte de l'autre, en fait, peut être aussi un leurre ou une manipulation. Et l'enfance est très soumise à ce genre de crainte pour Aurore toute sa vie d'ailleurs, même adulte, elle craindra pour sa mère. Et donc voilà, je réponds pas vraiment à votre question, mais c'est pour dire que j'essaye aussi d'interroger les choses derrière les choses, c'est-à-dire la première idée que l'enfance c'est l'innocence, pas tout à fait. J'essaie de montrer que pas exactement. Il y a aussi de la violence dans l'enfance, dans l'absolu. Qu'il y a aussi de la violence dans l'amour, qu'il y a aussi de la violence dans le pardon. Enfin, voilà. Donc j'essaie de chercher à comprendre, sans avoir du tout à un moment l'héroïne, une des héroïnes qui est la femme policière, dit qu'elle doute. Je pense que, par exemple, une des clés du rapport à l'autre, c'est le doute. On peut aussi douter un peu de soi-même. Peut-être ça fait pas de mal. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont un peu... C'est des questions que je pose, en fait, via cette histoire à chacun de nous. Ce qui m'intéresse, en fait, le plus, c'est le visage de ceux qui regardent. Et... qui, j'espère, sont impliqués dans ce qu'ils voient et ne sont pas des visages passifs ou qui auraient des expressions involontaires. Je voudrais qu'ils soient volontaires dans leur regard.
D'ailleurs, le doute, il est intéressant dans la vie d'Aurore, parce qu'à un moment, on a l'impression qu'elle ne sait même pas elle-même, justement, si... Est-ce que je suis dangereuse ? Est-ce que vraiment... est-ce que je suis cette personne que craignent les autres ou pas ? Et ce doute-là, il existe jusqu'à la fin.
Non, elle ne l'a plus quand elle rencontre l'homme qu'elle cherche. D'ailleurs, je rebondis aussi, je ne sais pas, aujourd'hui, je digresse, mais sur ce que vous disiez, dans le film, il y a un acteur noir américain qui s'appelle Maurice Green. Et juste, on parle de ségrégation, de tout ça, je constate qu'aucun média ne l'a évoqué. Alors que c'est un grand acteur.
Il a fait la musique aussi, j'ai vu.
Il a fait la musique, c'est un grand rappeur un peu expérimental comme ça. Voilà, c'est tout, puisque j'ai un micro, je peux dire une chose. Voilà, je pense que les difficultés, les époques changent, mais rien ne change vraiment tout à fait. Il y a quelque chose de... l'oppresseur est partout, y compris... dans ces murs, en nous-mêmes. Et je veux dire, voilà, tout ça pour dire que quand elle rencontre cet homme, elle ne doute plus, puisque lui l'aime. Et je pense que le doute s'évanouit quand on rencontre quelqu'un, voilà, dont le visage apaise le vôtre, on pourrait dire.
Et on a l'impression qu'il y a deux choses consolatrices. Il y a en effet l'espace de cette maison de Léonard, de cet homme qu'elle retrouve parce qu'elle l'a connu il y a longtemps et qui lui a dit en effet tu peux m'appeler si tu as besoin. Donc là, 15 ans plus tard, elle l'appelle parce qu'elle a besoin. Et il y a la nature. Il y a un rapport à la nature très fort dans le film et à travers l'image. Au début, parce que cette petite fille, on est dans les marais salins, ensuite on est dans la montagne, il y a la mer, et c'est comme si, et puis il y a le cheval aussi pour un autre des personnages, c'est comme si la nature, les animaux étaient un espace de solitude, mais aussi de consolation.
Oui, et d'inspiration, on peut se reposer ou se voir dans un paysage, on peut se construire le personnage de la petite fille qui, la petite sœur de la victime, se reconstruit en se fantasmant comme un cow-boy, par exemple, parce qu'elle vit dans un paysage qui peut faire penser à, je sais pas si on a de l'imagination, l'Arizona ou quelque chose comme ça. Donc, on se raconte des histoires à nous-mêmes par rapport aux lieux dans lesquels on se trouve, ça sert de projection, c'est un imaginaire, un paysage. Donc, je suis pas du tout d'une région où il y a la mer, mais pour moi, la mer, dans chaque film, il y a la mer, parce que ça évoque pour moi une forme d'horizon, ça symbolise l'horizon. Donc, que moi, j'ai peut-être pas eu, ou je ne sais quoi. Moi, l'effet que me fait un paysage, je me dis, ça peut faire de l'effet à chacun, à chaque enfant, à chaque adulte, comme une forme de miroir même.
Il y a un livre qui la suit, Aurore, qu'elle a avec elle et que Léonard lui avait offert, qui est un livre
de James Salter qui s'appelle Solo Faces, qui est un livre sur la.
Là, on est dans la montagne.
La montagne, voilà, mais qui est en fait un livre sur le symbole de l'altitude, comment s'élever dans une forme de dénuement et de solitude. Oui, c'est un truc sur l'élévation. C'est un très 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 beau livre. Et donc voilà, un des personnages là comme livre fétiche et le donne à l'héroïne comme gage de son amour, on pourrait dire.
Il y a beaucoup de déceptions aussi dans ce film, et il y a une déception qui se transmet de mère en fille, c'est la danse.
C'est un
rêve qui se transmet, mais qui... Oh, on ne sait pas pour la petite fille, peut-être qu'elle deviendra danseuse, mais en tout cas, il y a cette chose qui les poursuit.
Oui, c'est des rêves inatteignables, donc en fait, c'est aussi... Ça peut ruiner une vie, un rêve. C'était ça que j'essayais de montrer, c'était que souvent les gens se cachent dans leurs rêves, et s'en protège en se disant je ne peux pas atteindre ce rêve, donc dans ce cas-là je ne fais rien. Et donc j'ai toujours trouvé les rêves un peu dangereux, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, les rêves d'enfants, même les rêves d'adultes, les rêves de l'autre, les rêves comme ça, comme des excuses pour ne pas vivre la vie matérielle. Je pense que le rêve doit sortir du matériel et ne doit pas d'une certaine façon, la religion, être au-dessus de nous et nous écraser.
La mère d'Aurore, vers la fin, dit quelque chose de très beau. Elle parle de sa solitude et puis elle dit, justement, moi j'aurais pu être danseuse, mais j'ai pas eu l'occasion. J'aimais le beau. Et puis elle dit, vous cachez tous quelque chose, alors ne donnez pas de leçons, alors silence.
Ça, c'est surtout parce que c'est Aurore Clément, l'actrice, qui le dit. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un, alors elle, qui est vraiment le personnage le plus compliqué de l'histoire, le plus coupable, on pourrait dire, parce que c'est la mère de l'enfant. Et elle ne... Jusqu'à la fin, elle n'admettra pas qu'elle est coupable, puisqu'elle se vante en plus d'être grand-mère. Donc on sent qu'elle peut continuer à... sous couvert de... d'amour ou d'amour filial à essayer de, comme un oiseau avec ses ailes, à mettre de l'ombre sur les autres puisqu'elle est dans l'ombre et n'a jamais pu atteindre la lumière.
Alors on va s'élever et atteindre un peu la lumière avec Mélissa Lavo, qui est toujours en studio avec nous. Et le deuxième morceau, pour aller jusqu'à minuit, s'appelle Angelina.
Angelico, Angelina, Angelico, mesdames, m'a pas eu un conseil, serait t'écouter. Mesdames, m'a pas eu un parole, serait t'étendre. Mesdames, m'a pas eu un kishoy, serait t'écouter. Angelico, Angelina, j't'accueille, maman. J't'accueille, maman. J't'accueille, maman. J't'accueille, maman. Angelico, ma maman est désagrément. J't'accueille, maman. J't'accueille, maman. J't'accueille, maman. Angelico, Angelico. J'ai ta caille maman, t'es fille qui pas fait bon sens poids. J'ai ta caille maman, t'es fille qui pas qu'on l'avait passé. J'ai ta caille maman, Angelina, Angelina, go back to your mommy. J'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman, Angelina, papa moins désagrément. J'ai ta caille maman. J'ai ta caille, maman. J'ai ta caille, maman. Angelica, Angelica. J'ai ta caille, maman. J'ai ta caille, maman. J'ai ta caille, maman. Angelica, Angelica.
Bonsoir, je suis Antoine Defort et je vous appelle de Bruxelles où je suis actuellement dans la rue. Il fait un temps absolument épouvantable et je vous appelle pour vous parler d'un spectacle qui est un spectacle mais qui est en fait aussi peut-être une conférence dans la mesure où j'y délivre des informations que j'espère avérées sur le sujet des droits d'auteur. Les droits d'auteur, le copyright, comme on dit quand on est anglo-saxon.
C'est l'heure de notre coup de fil scène nationale. On appelle un artiste quelque part sur un plateau. Ce soir, c'est l'artiste metteur en scène Antoine Defort qui présentera sa pièce « Un faible degré d'originalité » à Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais. Et ce sera ce jeudi 18 janvier à 19h. En attendant, vous êtes sous la pluie, Antoine Defort ?
C'est ça, en gros, sous la pluie, et puis il y a du vent aussi.
Antoine Defort, pourquoi ça commence par les parapluies de Cherbourg ? Ce spectacle-conférence
Ça reflète la vraie histoire de ce projet qui a commencé par un tentative d'adaptation des parapluies de Cherbourg, dont je suis un grand amateur. Cette tentative a été avortée suite au refus des droits par les ayants droit de Vague Demi, ce qui a été l'occasion pour moi d'embrayer sur ce projet, sur les droits d'auteur, tel que je le raconte d'ailleurs au début de la pièce. Puisque c'était vraiment un sujet aussi qui me tenait à cœur depuis longtemps, j'avais envie de m'y atteler. Voilà, et du coup, j'en profite pour faire quand même un petit extrait des parapluies de Cherbourg, parce que ça fait toujours plaisir.
Donc les droits d'auteur, ça vous a empêché de réaliser un rêve ?
Oui, alors oui, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un rêve de le faire. J'aime beaucoup chanter les parapluies de Cherbourg avec les amis pendant des goûters le dimanche après-midi, mais finalement, ça me disait pas trop de le faire dans un théâtre. Et du coup, finalement, ça m'a peut-être empêché de réaliser un cauchemar, donc c'est peut-être mieux pour tout le monde.
Et est-ce que si on va avoir un faible degré d'originalité, on va apprendre des choses sur la propriété intellectuelle? Est-ce que c'est une conférence où vous délivrez des savoirs?
Oui, alors je délivre un certain nombre d'informations. Donc oui, j'espère qu'on apprend des trucs, à moins qu'on soit doctorant en droit ou spécialiste du sujet. On apprend un petit peu sur l'histoire, d'où ça vient, comment ça marche aussi. Et puis, qu'est-ce qui nous attend peut-être dans un futur proche? Tout ceci avec la gageure d'essayer de faire en sorte que ce soit un peu trépidant quand même, dans la forme, ce qui n'était pas une mince affaire. Et surtout, en tirant la petite ficelle des droits d'auteur, on arrive avec la grosse pelote sointante et dégoulinante de la question de la rémunération, en fait. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui dans notre système économique comme critère de rémunération? Qu'est-ce qui devrait donner droit à quoi, en termes de rémunération? Comment est-ce qu'on mesure l'utilité sociale d'un travail, ce genre de choses?
Eh bien, si on veut venir vous voir, Antoine Desfortes, ce sera, vous aurez le temps d'arriver à Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, jeudi, puisque vous êtes en ce moment en Belgique. Et ce sera à 19h. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Sylvain Patiou, on revient en studio. Et j'avais envie de finir cette émission avec un texte que vous m'avez envoyé. On a un tout petit peu parlé de ce rêve de danse avec Laetitia Masson qui est présent dans la série Aurore. Et là, vous travaillez avec un danseur.
Un chorégraphe.
Et vous avez écrit ce texte.
Voilà, avec Ivan Alexandre pour le festival Concordance qui associe un écrivain et un chorégraphe. C'est l'histoire d'un bal des ardents. L'histoire d'un roi qui danse avec ses plus fidèles compagnons. Déguisés en sauvages, ils sont enduits de poix et d'étoupes. Identiques, ils dansent dans leur château. Je ne sais pas quels sont leurs mouvements. Je ne sais pas comment on danse en ce temps-là, quand on est le roi. Je n'aime pas les rois, mais ce qui suit me touche. Parce qu'un noble curieux approche sa torche d'un peu trop près, et les compagnons prennent feu. Ils flambent, aussi joliment qu'ils dansaient, d'une beauté atroce. Le roi seul à l'écart est sauvé. On dit qu'il ne s'en est jamais remis de voir ses compagnons brûler. Il est devenu le roi fou. Il était déjà un peu sans doute. Un an plus tôt, il commençait à perdre la tête en traversant une forêt, pris de folie furieuse. Mais quand même, roi ou pas, fou ou pas, comment on fait après ça, après ceux qui étaient proches et qui s'en vont? Je ne veux pas que les miens se consument. Je ne veux pas danser, rire, les toucher, et puis soudain les voir se tordre et partir en fumée. Partie des vies qui ne comptent que sur l'avenir, des chemins caillouteux, sinueux pour arriver au futur, à la liberté. Laetitia Masson, la série Aurore est disponible sur le site d'Arte jusqu'au 25 janvier. Sylvain Patiou, son roman Nous avons arpenté un chemin caillouteux est disponible aux éditions Plein Jour. Mélissa Laveau, il faut attendre le 2 février pour le nouvel album qui s'appellera Radio Sewell. Mais vous pouvez aller la voir en concert le 19 janvier
à l'espace EMV à Sannois et le 30 janvier à Logne en collaboration avec la Ferme des Buissons.
Et Mélissa Laveau, vous serez en concert aux Étoiles à Paris le 8 mars.
Pour la journée de la femme, la journée internationale du droit des femmes, et c'est dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. En première partie, il y aura Camille Aouri.
Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Delphine Lemaire pour la réalisation, à la technique, merci à Pierre Monteil et Julie Garraud. Vous écoutez France Culture, il est minuit, c'est déjà demain, c'est l'heure des nuits.